carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Chers auditeurs, venez aujourd'hui rêver, vous interroger sur l'une des plus brillantes civilisations, trois fois millénaires, dont les constructions architecturales ou artistiques émeuvent encore ceux qui les regardent. Arrêtez-vous au pied du sphinx de Gizeh, posez-vous avec nous, en compagnie de deux éminents égyptologues, Nicolas Grimal et Olivier Perdu. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Quelques mots pour présenter les invités de l'émission. Nicolas Grimal est titulaire de la chaire du Collège de France Civilisation pharaonique, archéologie, philologie, histoire. Il a accordé son patronage scientifique à l'exposition Le Crépuscule des Pharaons, chef-d'œuvre des dernières dynasties égyptiennes. Une exposition qu'on peut voir du 23 mars au 23 juillet 2012 dans le très beau musée Jacques Marandré à Paris. Olivier Perdu est le commissaire général de cette exposition, égyptologue attaché à la chaire de civilisation pharaonique du Collège de France que je viens d'évoquer. Il dirige également la revue d'égyptologie, premier périodique français dans ce domaine. Et vous entendrez également Nicolas Sainte-Fargarneau, conservateur du musée Jacques Marandré, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui pour cet enregistrement pour des raisons d'agenda, mais qui a répondu à mes questions il y a quelques jours par téléphone. Et vous aurez justement le plaisir de l'entendre sur l'histoire assez fabuleuse de la constitution de la part égyptienne de la collection d'art de Nelly et André Jacquemart. Nelly et André Jacquemart formaient un couple de collectionneurs hors pair au XIXe siècle qui a légué ses collections et son hôtel particulier à l'Institut de France. Alors, revenons à mes invités présents aujourd'hui au studio de Canal Académie. Olivier Perdu, vous êtes un spécialiste de l'Égypte tardive, une période que vous avez enseignée pendant des années à l'école du Louvre. Vous achevez actuellement d'ailleurs le catalogue des statues privées tardives du département égyptien du Louvre. Et le propos de l'exposition est justement d'éclairer d'un regard neuf cette époque qualifiée d'époque tardive. Quelle est la particularité de ce millénaire ?
Alors ce dernier millénaire qui regroupe en fait toute la période pharaonique, le dernier millénaire de l'époque pharaonique, celui qui suit la chute des Ramsès, va de 1069 à 30 avant Jésus-Christ. Il est surtout marqué par une série de crises et d'invasions. On retiendra particulièrement l'invasion couchite, avec ces pharaons venus du Soudan actuel, du Nord-Soudan actuel. Ensuite, les deux invasions perses et puis la dernière invasion importante, celle des Grecs.
Une histoire mouvementée, une histoire qui est faite de conquêtes. Quand les nouveaux arrivants arrivent, est-ce qu'il y a table rase, des monuments anciens ou pas ?
Alors c'est une histoire mouvementée, certes, compliquée, certainement. Et c'est pour cette raison que pendant très longtemps, les égyptologues ont peut-être boudé un peu trop cette période qu'ils percevaient confusément. Et cette perception confuse a influencé l'image qu'on gardait de cette période. On a probablement forcé le trait. Elle est certes troublée, mais elle n'est pas chaotique comme on l'a pensé. Certaines périodes se révèlent au contraire des périodes fastueuses, des périodes de développement. Je pense bien entendu à l'époque Saïd, la 26e, qui débute en 664 avant Jésus-Christ. On peut également citer les dernières dynasties indigènes, dont la plus glorieuse a été la 30e, celle qui a précédé la deuxième domination perse et la conquête d'Alexandre.
Nicolas Grimal, vous êtes l'auteur d'une histoire de l'Égypte ancienne plusieurs fois éditée. Parmi vos livres récents, Le Grand Livre de Pierre et puis Événements, Récits, Histoire officielle, l'écriture de l'histoire dans les monarchies antiques, comment les historiens interprètent justement le passé entre période de déclin, période d'apogée ? Comment est-ce qu'on utilise cette grille de lecture et est-ce qu'elle a un sens au regard des 3000 ans de l'histoire de l'Égypte ancienne ?
Je crois qu'il faut beaucoup se méfier de ce genre d'appellation. Si vous aviez la possibilité de demander son avis à un Égyptien contemporain de la dynastie libyenne, il vous dirait pas qu'il vit une période de décadence. Lui, il a plutôt l'impression de vivre une période faste. Donc c'est un peu nous qui avons tendance à segmenter l'histoire en faisant alterner des périodes brillantes et des périodes moins brillantes. Alors le summum de ça, c'est la notion de période intermédiaire. On vous dit, voilà, il y a un empire, puis ensuite il y a une période intermédiaire. Toutes les périodes sont intermédiaires. Je crois qu'il faut relativiser. C'est un millénaire très important, parce qu'à l'échelle du Proche-Orient, c'est l'essentiel de l'histoire pré-biblique. On est dans un Proche-Orient qui bouillonne, qui bouge, avec de grands empires qui se constituent, et puis l'arrivée dans ce monde méditerranéen oriental des nouveaux venus, d'Asie mineure, et puis de Grèce, des Cyclades, donc tout un monde qui est en train de basculer.
De basculer, de se mélanger?
Oui, c'est un monde de mélange, d'échange, peut-être souvent plus qu'on ne le croit, parce que ces dynastes que l'on qualifie de Libyens, à l'origine, ils sont des gens qui viennent d'ailleurs. Attention, ce sont les Libois, ce sont ceux qui déferlent sur l'Égypte au tournant du deuxième et du premier millénaire, qui sont poussés eux-mêmes par les invasions caucasiennes, etc. C'est la guerre de Troie. Hein, ce sont... Donc ils arrivent, et lorsque Ramsès III, par exemple, repousse cette invasion dite des peuples de la mer, il va en sédentariser, en incorporer un certain nombre dans le système. Et vous avez des sortes de chefferies qui se sont constitués, qui vivent un peu dans les marges, puis en fait tout à fait dans le delta, et qui développent des... Ce sont des communautés humaines qui se développent, qui grandissent, et qui bien évidemment vont avoir tendance à prendre le pouvoir sur des zones de plus en plus grandes. Il y a un mélange, oui, assez fort.
L'exposition présente, j'ai plus le chiffre en tête, une centaine de pièces.
Alors très exactement, 122 pièces.
122 pièces.
Et 122 chefs-d'œuvre.
Et 122 chefs-d'œuvre.
Approximativement.
D'où le sous-titre, hein, Le crépuscule des pharaons, chef-d'œuvre des dernières dynasties égyptiennes.
Pour une fois, il ne s'agit pas d'une inflation dans le langage. L'équipe organisatrice était très soucieuse de ne pas participer à cette surenchère qu'on voit régulièrement maintenant sur l'Égypte. Mais là, dans le cas présent, on ne pouvait pas faire autrement que de parler de chefs-d'œuvre. C'est la réalité.
Alors parlons d'art, puisqu'on parle de chefs-d'œuvre. Est-ce que cette grille d'analyse déclin, décadence, apogée, est-ce que ça a aussi un sens pour les historiens de l'art, Olivier Perdus?
Alors, chaque période a une production artistique particulière, à ses points forts et ses points faibles. Pour parler de l'époque libyenne, par exemple, une période qui est parfois décriée. Elle se distingue par une production tout à fait de qualité. On pourrait même la caractériser comme une production qui se situe dans la continuité de l'époque ramesside, mais elle garde de l'époque ramesside les qualités, mais elle oublie les défauts. Ce qui fait que, de ce point de vue, la production statuaire et de relief de l'époque libyenne est supérieure à l'époque ramesside. Et dans certains domaines, comme le travail de la faïence, le travail du métal, elle excelle. Encore une fois, nous ne pouvons pas mettre toutes les périodes sur le même niveau, c'est ce que disait Nicolas Grimal. On ne peut pas les mettre sur le même niveau. Bien sûr, il y a des périodes qui vont ressortir tout particulièrement. Il est indéniable que la période saïte correspond non seulement à une relance politique, économique, mais également à une relance artistique.
Vous pouvez situer l'époque saïte pour nos auditeurs?
L'époque saïte, très exactement, elle débute au moment où Psamétic Ier refait l'unité du pays. L'Égypte n'a pas été réunie depuis pratiquement le règne d'Osorkon II, donc pratiquement deux siècles plus tôt. Et cette époque débute en 664. Elle dure à peu près un siècle.
C'est, lit-on partout, là, dans la presse, et quand on visite l'exposition, c'est la première exposition consacrée à ces chefs-d'œuvre de l'époque tardive de l'Égypte antique. Comment est-ce que ça s'explique?
Alors, c'est peut-être la première qui envisage le sujet dans sa globalité. C'est assez téméraire, puisque l'espace de Jacques Marandré ne nous permet pas, en quelques mètres carrés, de couvrir toute cette période. Mais la témérité est notre caractéristique. Je parle de la chaire de situation pharaonique du Collège de France. Et oui, effectivement, mais il y a eu auparavant des expositions très intéressantes sur les époques tardives, notamment en France. N'oublions pas la très belle exposition sur la gloire d'Alexandrie, qui a eu lieu au Petit Palais. Et puis, dans notre domaine tout particulièrement, une exposition qui a beaucoup marqué, c'est une exposition qui a eu lieu à Brooklyn, au Brooklyn Museum précisément, à l'hiver 1960-1961, c'est la première fois qu'on montrait au public des œuvres. Là, on ne parlait pas de chefs-d'œuvre, des œuvres des périodes tardives, mais cette exposition concernait essentiellement la statuaire, et la statuaire entre la 25e dynastie et l'époque ptolémaïque. Là, on voit au-delà. C'est une exposition, je dirais, moins élitiste. Elle s'adresse au grand public, je dirais même à des personnes qui ne connaissent rien à l'égyptologie. La thématique est très simple, ce qui fait que quelqu'un qui arrive là, sans avoir lu même un que sais-je sur l'Égypte, peut très bien comprendre, il suffit d'observer, de montrer sa curiosité, Et cette curiosité amènera à se poser des questions et puis peut-être à lire d'autres ouvrages.
Dans cette exposition, il y a une part très très importante accordée à la statuaire antique, enfin à la statuaire égyptienne, qui occupe une place dominante dans les arts de l'Égypte. Quel était son rôle, justement, pour les hommes et les femmes de cette époque ?
Alors effectivement, quelle que soit l'époque considérée, depuis l'époque libyenne jusqu'à la fin de l'époque ptolémaïque, le domaine où les artisans ont excellé tout particulièrement, c'est la statuaire. Cette statuaire, d'ailleurs, qu'elle soit divine, représentation de divinité royale ou privée. Bien sûr, la plus riche, c'est la production de statues privées. Alors ces statues privées, en fait...
C'est le cœur du début du parcours de l'exposition.
Exactement, c'était peut-être le plus révélateur de cette richesse de la production artistique des époques tardives.
De ce coup de projecteur.
Absolument. Et vous avez parfaitement résumé l'exposition. Elle ne peut pas envisager le sujet dans son ensemble. Elle jette des coups de projecteur sur des temps forts de la production artistique des époques tardives pour bien montrer qu'elle ne correspond pas, qu'elle ne peut pas se réduire, se résumer à une période de déclin. Pour répondre à votre question sur les statues...
Qu'est-ce qu'on appelle une statue de temple ou...
Une statue privée. Il faut bien reconnaître, mais Nicolas me complétera mon propos, il faut bien reconnaître qu'aux époques tardives, on ne consacre pratiquement plus de statues dans les tombes. Elles sont devenues trop petites, le matériel funéraire se réduit cette fois à l'essentiel, et les Égyptiens préfèrent en fait consacrer leurs statues dans les temples, là où elles peuvent profiter des offrandes qui sont présentées aux dieux. N'oublions pas que le but essentiel de ces statues, c'est de montrer la présence du personnage à un endroit où il peut bénéficier d'offrandes qui lui seront utiles dans l'au-delà.
La mission première de ces représentations.
Oui, avant d'être des œuvres d'art pour nous, ce sont avant tout des œuvres utilitaires.
Nicolas Grimal, est-ce qu'il y a un traitement différent dans la représentation des hommes et des femmes dans cette statuaire d'ordre privé, on va dire ?
Je pense que le fait même que ce soit une statuaire utilitaire, comme vient très justement de le dire Olivier Perlu, donne la clé, puisque le but de la statuaire utilitaire, c'est de pouvoir identifier l'individu qu'elle représente. Donc on va l'identifier par son costume, sa fonction, donc il y a une typologie qui est assez fixe, qui peut paraître stéréotypée, et puis ensuite, on va l'identifier par le mode de traitement. Il faut bien que le visage soit ressemblant. Et le visage va être ressemblant à l'intérieur de certains archétypes, mais comme nous sommes à une période où la gloire égyptienne étant un petit peu absente de la scène internationale, mais cette gloire égyptienne, on va tendance à y faire référence, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion historique et artistique qui font que l'on va copier ou s'inspirer des formes classiques les plus achevées, en particulier à l'époque saïte, mais aussi à l'époque éthiopienne, qui ne diffèrent pas beaucoup de l'époque saïte sur ce plan-là. Donc on va avoir tendance à prendre le meilleur de la plastique égyptienne et à l'adapter de façon à rendre compte des personnalités. Le plus bel exemple, c'est la tête verte de Berlin, qui domine notre exposition et qui montre à quel point on peut, à l'intérieur d'un prototype artistique, avoir une création totalement personnalisée. Et vous avez vu, c'est dans la deuxième salle, vous avez toute une batterie de têtes qu'on appelle, j'aime pas le mot, les crânes d'œufs, ça me plaît pas, parce qu'en fait, ce sont des prêtres qui sont représentés sans leurs poils, bien évidemment. Mais vous avez, dans toute une série, plusieurs essais archaïsants qui évoquent très bien l'Ancien Empire, puis tout d'un coup, vous avez une tête de Perse. Ce Perse est parfaitement incongru avec ses grandes moustaches. Il témoigne justement de cette volonté de se couler dans une forme de référence qui permette une identification plus grande. Vous voyez, on en arrive à une sorte de paradoxe à l'intérieur même de la stylistique.
On ne parlerait pas d'assimilation de...
Ah, le Perse, il n'est pas assimilé. Lui. Celui-là, il n'est pas assimilé du tout.
Non, mais je veux dire,
il est dans les canons, mais il est très...
Je ne pensais peut-être pas à cette statue
aussi,
avec les grandes moustaches.
Oui.
Mais par exemple, pour la tête de Berlin ou...
C'est difficile à dire parce que le portrait lui-même, comme dit précédemment, doit permettre l'identification. Mais il donne aussi un ton, une teinte réellement artistique. Ces portraits dégagent une personnalité et cette personnalité, elle va être souvent liée à la fonction. C'est sûr qu'on vous montre des intellectuels, on vous montre des artistes ou autres, mais en même temps, ça va faire que l'individu va être unique. Donc on va saisir son âme, en quelque sorte, et la transposer. Et là, on est vraiment en face de chef-d'œuvre. Parce que ces chefs-d'œuvre sont le fait d'artistes qui maîtrisent
totalement l'arsenal égyptien, mais complètement. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois les techniques. Olivier disait tout à l'heure, en parlant des Libyens, et en l'entendant, je pensais à un bel objet que j'aurais bien aimé voir dans cette exposition, mais malheureusement, il ne nous a pas été prêté, qui est la statue de Karomama, la magnifique statue de Karomama qui avait enchanté Champollion.
Alors là, mes invités sont tous les deux sourires fendus jusqu'aux oreilles.
Ben, oui, parce qu'elle est tellement belle, cette statue, et c'est un chef-d'œuvre de niellage, qui n'est pas une technique égyptienne, puisque c'est une technique métallique héritée du Levant. En fait, c'est une technique qui vient de la Syrie. Et cette technique-là a été totalement maîtrisée, et on voit bien que sur le terreau propre égyptien, il y a ce métissage plastique et artistique qui donne des résultats qui sont plus qu'égyptiens, tout en étant sur des technologies différentes.
Pour le Louvre, Olivier nous a prêté quand même d'autres chefs-d'œuvre. Mais nous ne pouvions pas tous les recevoir. Mmh. Aucun musée ne pourrait prétendre recevoir justement tous les chefs-d'œuvre des époques tardives.
Et un mot sur cette tête verte de Berlin que vous venez d'évoquer l'un et l'autre. Le rendu, j'allais traduire ça dans mes mots, le rendu, c'est une pierre. On dirait presque un rendu métallique, on dirait presque un bronze.
C'est pas n'importe quelle pierre, c'est la Grovac.
Racontez-nous.
Cette Grovac qui est en fait cette pierre que l'on trouve dans le Wadi Hammamat, donc non loin de la vallée du Nil à la hauteur de Koptos. Cette pierre, elle est très particulière. Elle permet une gravure très nette. Tous les textes hiéroglyphiques gravés dans la Grovac sont véritablement magnifiques. Et cette Grovac, elle permet également, dès qu'elle est polie, d'avoir un reflet particulier. Et suivant le degré du polissage, on obtient des résultats tout à fait différents, mais à chaque fois remarquables. Et c'est dans cette Grovac qu'on grave, qu'on sculpte les œuvres, les chefs-d'œuvre, depuis l'époque Saïd. Auparavant, la Grovac n'est pratiquement pas utilisée. On préfère les pierres sombres, la diorite, la granodiorite. À partir d'une certaine période, on diversifie les pierres, on emploie des pierres avec des couleurs différentes et parfois des couleurs très claires.
Et cette tête, c'est la tête de qui ?
Alors, d'un particulier,
tête verte
bien
de
entendu.
Berlin, alors vous savez, ça peut nous faire rêver, mais...
Alors, on n'a pas encore retrouvé le corps. On sait où il doit se trouver, puisque la tête, nous ignorons son origine. Le corps devrait se trouver sur le site de Saïs. Mais pour l'instant, nous ne l'avons pas trouvé. Je gage que celui qui en fera la découverte sera très heureux.
On sait qui c'est ?
Alors, la statue peut être attribuée, peut être datée de l'époque ptolémaïque, bien entendu. Maintenant, il n'y a pratiquement plus de doute. Mais n'oublions pas qu'il y a encore quelques années, l'éventail des possibilités couvrait pratiquement 500 ans. Maintenant, on est tous d'accord pour la situer à l'époque ptolémaïque. Et la probabilité la plus grande concerne le 1er siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, des personnages qui se font représenter ainsi, avec des statues de belles dimensions, là on peut imaginer que nous avons affaire à une statue qui doit faire à peu près 80-70 cm, ce sont soit des grands prêtres, soit des gouverneurs locaux.
Il faut peut-être préciser,
Nicolas
quand Olivier parle d'époque ptolémaïque, que nous sommes dans de l'art égyptien de la Kora, nous sommes dans de l'art indigène, qui n'a rien à voir avec l'art de la cour tel qu'on peut l'avoir à Alexandrie. C'est-à-dire qu'on a une continuité dans la production, ce qui vous explique que les experts aient pu pendant longtemps hésiter. On a une continuité dans la production, on est dans un style qui est aussi bien celui de la 30e dynastie que de la période Saïd. Donc on a eu un glissement qui fait qu'on le date archéologiquement. Mais en fait, stylistiquement, il y a une continuité remarquable sur un demi-millénaire à peu près.
D'accord. Vous parlez, Olivier Perdu, d'un peuple de statues, quand même, pour expliquer cette variété dans la statuaire égyptienne. Vous présentez dans cette exposition de nombreuses statues cubes. J'aimerais que vous, par exemple, vous nous expliquiez leurs fonctions et les pièces que vous avez choisies et pourquoi.
Alors la statue cube, c'est certainement le modèle de statue de temple le plus courant. Il faut dire aussi que c'est le mieux adapté. On le voit apparaître à la fin de l'Ancien Empire. Il est utilisé de plus en plus abondamment dans les temples jusqu'à la fin du Nouvel Empire. Et à partir de l'époque libyenne, donc juste après la chute du Nouvel Empire, il devient pratiquement le type prépondérant dans les temples. Et c'est seulement à partir de l'époque Saïd que l'on va diversifier les attitudes, revenir à des modèles plus anciens. Mais c'est vrai que c'est un modèle tout à fait en vogue. Alors son premier avantage, c'est d'être massif, compact. Ce qui fait que pour les espaces ouverts où sont présentés les statues privées, voilà des monuments qui sont particulièrement résistants. D'ailleurs, à l'expérience, on constate que beaucoup de statues cubes ne sont parvenues intactes, à preuve les quelques exemples que nous avons réunis à Jacques Marandré. Et puis, un autre avantage, c'est que ces statues cubes offrent de larges surfaces planes qui sont propres à être gravées de représentations et d'inscriptions qui renforcent l'efficacité du monument.
Sur leur pourtour, voilà. Sur leur base, sur le corps, justement, en forme de cube. Enfin, la position agenouillée du personnage représenté offre une véritable page de lecture.
Exactement. Et en plus, elles sont faciles à réaliser.
Ah bon, pourquoi ?
Dans la mesure où, si on opte pour le modèle le plus traditionnel, c'est-à-dire celui où la gaine, une sorte de gaine, enveloppe la totalité du corps en ne laissant émerger que les mains et la tête, eh bien, on n'a pas à se poser le problème de la représentation du torse, par exemple. Donc, c'est relativement facile à faire.
Vous évoquez justement le corps des statues, là. Qu'est-ce qu'on peut dire de la représentation des corps, justement, à travers les pièces que vous présentez dans cette exposition ?
C'est une des caractéristiques de la production artistique tardive, du moins à partir de la 25e dynastie. On accorde un intérêt tout particulier à la notation des détails anatomiques. Mais en fait, c'est une conséquence un peu inattendue de la tendance archaïsante. La tendance archaïsante remet au goût du jour, et ça, c'était une observation qui avait été faite dans une note de bas de page par Jean Leclan dans son ouvrage sur Manteau et Mat. Et il observait que cette tendance archaïsante avait remis au goût du jour là, le pagne Shenji de Plissé, celui qu'on ne voit plus maintenant que dans les productions hollywoodiennes. Eh bien, il avait été abandonné en Égypte pratiquement depuis l'Ancien Empire. Il revient. C'est donc un pagne très court qui a cet avantage, c'est qu'il laisse les parties du corps apparentes. Et quand il s'agit, au moment où on réintroduit le pagne, représenter le corps, eh bien, on s'inspire des mêmes modèles. On s'inspire des modèles de l'Ancien Empire qui se distinguent effectivement par une attention particulière portée au corps, notamment au torse et aux jambes. Et ce qui est tout à fait étonnant dans ces œuvres qui apparaissent en fait dès la fin de l'époque libyenne, on voit des détails propres à l'Ancien Empire, comme la bipartition du torse, réapparaître. De même, la façon de noter les muscles de la jambe, c'est exactement le même modèle qui est repris aux époques tardives.
Quels sont ces codes, Nicolas Krimal ?
L'idée, c'est de, tout en conservant la personnalité de l'individu, de le représenter avec certaines formes idéalisées. On va de préférence représenter les gens en bonne santé, avec un corps athlétique, élégant, ceci étant valable pour les dames comme pour les messieurs. Donc là, il y a pas mal de stéréotypes.
Est-ce que ça témoigne d'un idéal féminin ou masculin?
Vous savez, je crois que non. Je crois que pas vraiment.
Qui serait volontairement
le but, c'est d'être durablement en bonne forme.
Donc, d'accord. Vous êtes plus terre à terre sur le.
Vous savez, quand on vous représente dans un temple où vous allez, alors on a oublié dans les statues cubes les naophores, sistrophores et autres qui tendent sur le passage du dieu le symbole et qui leur permettent de bénéficier du virement de l'offrande. Bon, ben, étant donné que c'est quand même, ils s'installent là pour longtemps, hein, donc faut qu'ils soient en bonne forme et qu'ils restent bien.
Il me semble avoir lu, ou peut-être j'ai mal compris, qu'il peut y avoir même une idéalisation du corps et un visage plus marqué par le temps.
Ah, effectivement, oui.
Oui. Vous avez des athlètes qui ont une tête de vieux. Oui, ça existe, oui.
Bon, passons au royaume des morts, si cher quand même aux Égyptiens de l'Antiquité. On connaît l'importance du mobilier funéraire dans la civilisation égyptienne. Et justement, dans l'exposition, vous avez présenté, alors là aussi, des chefs-d'œuvre de ce mobilier. Est-ce qu'il y a une particularité à l'époque tardive de ce mobilier ? Est-ce que la vision de la mort a changé ?
On a besoin la de vision, faire, fondamentalement, non, elle n'a pas changé, puisque les Égyptiens sont toujours préoccupés par leur destinée posthume. Alors, ce qui a peut-être changé, c'est les moyens qu'ils consentent pour parvenir à cette éternité. Là, effectivement, peut-être qu'ils sont plus modestes. En tout cas, les tombes sont donc réduites en dimension. Leur mobilier est lui-même limité à l'essentiel, donc on va trouver tout ce qui concerne la protection de la momie, donc les différents cercueils ou sarcophages qui la protègent, et puis ce qui est nécessaire pour la conservation des viscères, donc soit les vases canopes, soit les coffrets à canopes pour les époques les plus récentes. Et puis bien entendu, les serviteurs funéraires, les représentations du dieu des morts, voilà les éléments essentiels du trousseau funéraire. On n'a plus cette accumulation d'objets de la vie quotidienne qu'on trouvait éventuellement au Nouvel Empire.
On l'explique comment, Nicolas Grimal ?
Je ne sais pas si on l'explique.
Faute de moyens ?
Non, pas vraiment, je ne pense pas.
Après une fois, je voulais être pragmatique.
Non, il y a d'abord le fait que beaucoup de ce mobilier vient de nécropoles provinciales qui n'ont pas le même apparat, le même faste que les grandes nécropoles royales de Haute-Autéry, par exemple. Il y a le fait aussi que les siècles s'accumulant, il y a de moins en moins de place et les nécropoles deviennent chères. On a tendance même à squatter des nécropoles plus anciennes. Donc il y a déjà cela. Il y a aussi le fait que effectivement, les moyens économiques sont peut-être différents. L'Égypte est un pays, comme Ounamon le constate, assez dépens, est un pays qui n'a plus les moyens. Donc, il y a moins d'afflux de richesses, etc. Ça, c'est certain. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, on voit au fil du temps un rapprochement du corps lui-même du défunt. C'est-à-dire qu'on va porter la plus grande attention au sarcophage et à ce qui va entourer le corps. Les plastrons, donc à la fois en matériaux et en même temps dans les représentations et les textes qui accompagnent. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression qu'il y a un resserrement autour de la personne qui fait que effectivement
tout le mobilier est plus lointain et plus éloigné du corps. Cela vient aussi du fait que beaucoup de caveaux sont des sépultures collectives. Vous avez des corps qui sont les uns avec les autres. Ils mettent donc en commun les lieux, mais pour que leur devenir propre soit assuré, ben, il faut que ce soit au plus près d'eux. Alors, vous savez, quand vous dites que les Égyptiens tenaient beaucoup à la mort, je pense qu'ils tenaient d'abord à la vie. Et c'est pour ça qu'ils ont fait grand cas de la mort.
Mais disons qu'il, par rapport à nos sociétés d'aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir.
Croyez-vous, n'êtes-vous pas préoccupé par la mort ?
Si, je parle
des
de
Égyptiens
la, de
également.
Ça
n'était peut-être pas une obsession, comme au sens où on l'entend.
Oui.
Ça correspond tellement à cette image d'Épinal. Et l'exposition, l'un des buts de l'exposition, c'est justement montrer que l'Égypte, c'est pas cette image d'Épinal qu'on garde bien
c'est
souvent.
La vie.
D'où la statuaire privée qui...
D'où tous les monuments.
D'accord.
On échappe, je l'espère, à tous les clichés habituels. Mais ça, c'est au public de nous le dire. Mais
vous savez,
pour
mettre tellement en avant la mort, il faut aimer la vie, pour imaginer une mort qui reproduit la vie.
Je suis bien d'accord avec vous, je partage votre avis. Mais ce que l'on a dans les musées, c'est pour le visiteur lambda, c'est ce mobilier funéraire.
Mais vous avez une, une raison à cela, qui est une raison de l'histoire de l'archéologie.
Mais oui,
c'est qu'on s'est d'abord attaqué à ce qui était durable, c'est-à-dire les maisons éternelles. Mmh. Et petit à petit, on est entré dans la vie, dans l'urbanisme, dans toutes sortes de choses qui ne sont pas présentes. Imaginez qu'on décrive la civilisation française à travers les églises et les préfectures.
Comment est-ce que vous avez voulu présenter à l'heure où casser les images d'Épinal qu'on se fait de la façon dont les Égyptiens abordaient la mort ?
Alors, pour ce qui concerne la mort, ce n'est peut-être pas le point fort
de l'exposition. Non ?
Il s'agissait surtout de montrer que même dans le domaine funéraire, on avait réalisé de très belles choses. Et parfois des choses très originales, comme les papyrus mythologiques, qui sont en fait des versions illustrées des livres funéraires traditionnels. Là où on a voulu justement échapper au poncif, c'est probablement ce cliché qui est attaché à l'Égypte d'une Égypte immuable, figée. Cette exposition, elle montre au contraire que l'Égypte n'a pas cessé d'évoluer, de bouger, de s'adapter. Alors certes, il y a des règles, des conventions qui continuent d'être respectées. On va éventuellement, à la faveur d'une tendance archaïsante, s'inspirer des œuvres du passé, revenir dans le passé, mais le pays change. On ne peut pas comparer, par exemple, l'Égypte ptolémaïque avec l'Égypte de l'époque libyenne. Ce sont deux mondes. On est saisi de vertige quand on se promène dans cette exposition, parce qu'en fait, on voyage de monde en monde.
Est-ce que l'image des dieux aussi a changé dans,
L'image que les Égyptiens avaient de leurs dieux, en tout cas de certaines figures, oui. Par exemple, Osiris, cette divinité chez nous si célèbre. Jusqu'à la fin du Nouvel Empire, Osiris est surtout perçu comme un dieu associé à l'au-delà. Et à partir de la fin du Nouvel Empire déjà, mais surtout à partir de l'époque libyenne, et plus encore sous les Couchites, Osiris devient un dieu qui est l'image même de la Renaissance, un dieu qui devient très populaire, un dieu qui fait son entrée, je dirais, dans la sphère des vivants, et un dieu dont le culte se répand à travers toute l'Égypte. On voit quantité de chapelles, de temples consacrés à Osiris dans beaucoup de localités.
Quels sont vos coups de cœur à l'un et l'autre de ces chefs-d'œuvre, Olivier Perdu ?
Alors, je vais vous répondre tout de suite. Tous,
oui.
Puisque j'ai eu le privilège de devoir sélectionner avec toute l'équipe les objets qui sont là, donc inutile de vous dire que avec chacun, j'ai en plus une histoire quasiment personnelle, quoi. Alors, je peux vous parler de l'objet du moment.
Bien sûr.
Depuis ce midi, je penserai tout particulièrement à cette plaquette représentant Youput II dans la salle des rois, la salle 7. Cette plaquette qui a l'effigie d'un roi obscur de la fin de l'époque libyenne, qui est un contemporain de Pianchi, qui est un des adversaires de Pianchi. On le découvre sur une petite plaquette d'une qualité extraordinaire. Et cette plaquette, dans sa représentation du roi, est un très bel exemple de la tendance archaïsante. Il s'inscrit même parmi les premiers exemples de la tendance archaïsante. C'est non seulement un objet de belle qualité, mais un objet qui a un intérêt particulier dans la mesure où, associé à d'autres, il nous permet d'affirmer que cette tendance archaïsante, qu'on a raison d'associer à l'époque couchite, elle est déjà présente à la fin de l'époque libyenne. Pour l'interprétation qu'on doit faire de la tendance archaïsante, c'est important.
Nicolas Grimal ?
Je ne voudrais pas vous donner un choix qui serait un choix de spécialiste. Il y a, je pense en particulier à une petite représentation en bois de Lyon, une petite représentation culturelle qui est rarissime. Bon, on ne va pas en parler, elle n'est pas belle quand on la voit, mais elle est extraordinairement rare. Non, je pense que sur un plan esthétique, un plan émotionnel, qui est un peu ce que vous demandez, ça reste la tête de Berlin. Ce visage, plus je le regarde, et ça fait des années que je le regarde, ce visage, est extraordinaire par son modelé, par l'impression qui est donnée dans ce matériau précieux qu'est le gros vac, qui est une pierre peut-être tellement lisse, tellement douce, tellement belle. On a l'impression de suivre à travers les accidents de ce visage, les rides, une sorte de sagesse intérieure qui en émane, qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a là un confrère d'autrefois, bien sûr.
La note finale, elle sera apportée par le public. Et je dois dire que j'ai été très agréablement, pas surpris, parce que d'une certaine façon, on l'attendait. Mais j'ai été, en tout cas emballé par la réaction du public. Et grand ou petit. Parce que même les enfants, j'y étais encore ce matin à la salle d'exposition, j'ai vu quel intérêt les jeunes, les plus jeunes, les enfants portaient à l'exposition. Et ça, c'est tout à fait enthousiasmant. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il n'y a pas justement, comme le disait Nicolas Grimal, il n'y a pas une œuvre qui s'impose. Chacun y trouve ce qu'il souhaite. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors pour l'un, ce sera cet objet, et je suis content que Nicolas Grimal l'ait évoqué, parce qu'il est tout à fait étonnant, cette représentation d'un lion assis à tête de faucon. Mais chacun y trouve son compte. Et ça, je trouve ça le plus beau compliment qu'on puisse recevoir.
Il y a une très belle salle consacrée aussi aux figures féminines, qui est vraiment là, des statues qui sont très, très belles, une belle sculpture. Je crois que le public y trouvera effectivement son compte sans qu'on lui donne quelques conseils particuliers. Je vous remercie d'être venu parler du Crépuscule des Pharaons. Une très belle exposition au musée Jacques Marandré. Nicolas Grimal.
Oui, je voudrais juste dire un petit mot. Pourquoi avons-nous appelé cette exposition le Crépuscule des Pharaons ? C'est en hommage à mon maître Jean Leclan, qui dans la Pléiade avait dirigé l'Égypte du crépuscule. Il a été l'un des pionniers des études de cette époque, consacrée à cette époque, tant d'histoire que d'archéologie, que d'histoire de l'art. Et donc cette exposition veut lui rendre un hommage à lui qui nous a quittés il y a à peine quelques mois.
Je vous remercie tous les deux. Je signale le très beau catalogue de l'exposition catégorie Beaux Livres, pratiquement, édité par Culture Espace et le Fonds Mercator, qui rassemble les contributions des plus grands spécialistes en France, mais aussi à l'étranger, sur le sujet.
Certains. Sont nombreux.
Pour vous accompagner dans cette exposition, chers auditeurs, plusieurs outils sont à votre disposition. Un site internet, Crépuscule des Pharaons, toutattaché.com, vous voyez, tout existe. Des audioguides sont à votre disposition, des visites commentées et téléchargeables sur votre iPhone, iPad peuvent vous accompagner, en dehors ou en plus des très classiques audioguides. Je voudrais signaler le mécénat de GDF Suez, partenaire de l'exposition, qui est aussi un partenaire habituel du musée Jacques Marandré. Et chers auditeurs, je vous rappelle que cette très belle exposition est à voir dans le bel écrin du musée Jacques Marandré, un bel hôtel particulier du boulevard Haussmann à Paris. Et rien de mieux que de voir les œuvres en vrai. L'exposition s'intitule « Le crépuscule des pharaons, chef-d'œuvre des dernières dynasties égyptiennes ». Et un grand merci à nos trois invités, Nicolas Sainte-Fargarne, Olivier Perdu et Nicolas Grimal. Retrouvons Nicolas Sainte-Fargarne, historien de l'art, spécialiste de la peinture française, conservateur du musée Jacques Marandré depuis 1993. Nicolas Sainte-Fargarne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous par téléphone pour cet entretien à propos de la très belle exposition que présente le musée Jacques Marandré intitulée « Le crépuscule des pharaons, chef-d'œuvre des dernières dynasties égyptiennes ». Une exposition à voir, pour rappel, du 23 mars au 23 juillet 2012. Nicolas Sainte-Fargarne, vous organisez deux fois par an de grandes expositions au 158 boulevard Haussmann à Paris, dans le très bel hôtel particulier Jacques Marandré, qui abrite aujourd'hui le musée, et qui était la demeure d'un célèbre couple collectionneur de la fin du 19e siècle, dont l'art était la raison de vivre. Alors il y a deux événements dans cette exposition. Tout d'abord, c'est la première fois qu'on expose des œuvres de l'époque dite tardive de l'art des Égyptiens. Et le deuxième événement, c'est d'avoir présenté la partie égyptienne de la collection d'art de Nelly Jacques Marandré. Vous invitez le public à découvrir donc l'époque du dernier millénaire de l'histoire pharaonique, les 10 siècles qui précèdent la conquête romaine, donc de 1069 à 30 avant Jésus-Christ, une époque troublée, une époque souvent présentée comme un long déclin sur le plan politique. Pourtant, ce dernier millénaire est synonyme d'un brillant renouveau pour l'art égyptien. L'exposition propose donc de découvrir pour la première fois une centaine de pièces dont la beauté oscille entre la recherche de la beauté idéale, ça serait la tradition de l'art pharaonique, et l'innovation avec l'attrait pour un réalisme anatomique assez poussé. Nicolas Saint-Fargarneau, comme première question, d'où proviennent ces œuvres que nous ne sommes pas prêts de voir de sitôt, je crois, réunies à Paris ?
Alors écoutez, pour répondre à votre question, je dirais que grâce à l'appui et évidemment la connaissance d'Olivier Perdu, nous nous sommes adressés aux grandes collections d'égyptologie dans le monde occidental, c'est-à-dire que nous avons fait en quelque sorte le tour de nos grands musées français, le Louvre en tête naturellement, et puis en Allemagne avec deux villes essentiellement, Munich et Berlin, notamment avec le musée égyptien, et on y reviendra je pense. Et puis en Angleterre, bien sûr, le British Museum, mais également d'autres musées comme l'Ashmolean Museum d'Oxford. Et puis nous avons franchi l'Atlantique et nous sommes retrouvés sur 4 étapes nord-américaines avec les musées de Boston, de Brooklyn, du Metropolitan Museum de New York et de Baltimore. Ce sont des collections qui ont été réalisées entre essentiellement le 19e siècle et le début du 20e siècle, à une époque où les chantiers de fouilles permettaient l'exportation d'une partie des œuvres retrouvées. Et c'est la raison pour laquelle ces grands musées avaient rassemblé des ensembles importants. Alors, je vous dois une précision. C'est que l'importance des prêts que nous avons obtenus, elle s'explique aussi parce que l'époque tardive, comme on le dit couramment, est une époque qui était mésestimée. Et en réalité, ces œuvres-là, les œuvres de cette période, c'est-à-dire le dernier millénaire avant notre ère, sont plus facilement sorties de l'Égypte que les œuvres qui appartiennent, par exemple, au Moyen-Empire. Et de ce fait, elles étaient en nombre plus important et nous avons pu, bien entendu, établir un choix plus serré, mais dans le sens de la qualité. Et c'est ça qui nous a valu, évidemment, ces prêts tout à fait étonnants. Je n'en citerai qu'un seul, plus exactement deux. D'un côté, la petite statuette d'Amon en or du Metropolitan Museum, jamais prêtée à l'extérieur. Et de l'autre côté, la tête verte de Berlin, également jamais sortie en France, en tout cas. Deux chefs-d'œuvre de cette période, de cet art pharaonique tardif, qui sont aujourd'hui présents au musée Jacques Marandré.
Nicolas Saint-Fargarneau, en tant que conservateur des collections du musée, vous avez une excellente connaissance des œuvres léguées par testament en 1912 à l'Institut de France par Nelly Jacquemart, la veuve d'Édouard André. Et est-ce que vous pouvez nous présenter justement que représente la part égyptienne de la collection du couple Jacques Marandré qui avait acquis à peu près 5000 œuvres, qui compte parmi les signatures les plus illustres, pour n'en citer que trois, je dirais Bellini, Mantegna, Rembrandt, mais aussi Vigée Lebrun. Et là, que représente justement dans cette grande collection la part des antiquités égyptiennes ?
Alors écoutez, disons-le tout net, cette part en rapport avec les exemples que vous venez de citer, c'est-à-dire la peinture italienne, la peinture française et flamande ou hollandaise des XVIIe et XVIIIe siècles, cette part était évidemment extrêmement réduite. Ça s'explique d'une certaine façon parce que, en réalité, et ça nous l'avons appris récemment, Nelly Jacquemart et Édouard André ont réalisé leur premier voyage en Égypte en 1894. C'est-à-dire, si vous voulez, quand on regarde la période d'acquisition de la collection Jacquemart-André, on est déjà assez tard. Et d'ailleurs, 1894, c'est l'année de la mort d'Édouard André. Alors, à l'occasion de ce premier voyage qui, je le souligne, c'est très important, c'est un voyage commun. Donc l'époux et sa femme ont été visiter l'Égypte, ont fait, comme c'était souvent le cas, en tout cas de leur part, un périple qui les a amenés très haut dans l'arrière-pays, oui. Et ils ont visité tous les sites historiques, archéologiques. Ils se sont aussi arrêtés, suivant leurs mauvaises habitudes, si j'ose dire, dans les villes, visité les antiquaires, les galeristes, et ils ont ramené de ce premier voyage environ 150 pièces. Donc, si vous voulez, au regard des 5000 numéros d'inventaire que vous citiez tout à l'heure, bon, c'est une proportion très limitée. Mais en réalité, et c'est là où c'est passionnant, l'étude a montré, alors cet ensemble de 150 pièces, je le précise, il est aujourd'hui divisé en trois parties. Une partie qui appartient aux collections du musée parisien, c'est-à-dire le boulevard Haussmann. Une autre partie qui est dans l'autre moitié de la fondation à l'abbaye royale de Chaly. Et puis une troisième partie qui a été donnée en 1897 par Nelly Jacquemart au musée du Louvre. Et déjà, ce simple fait devrait nous mettre la puce à l'oreille. Parce que pourquoi le Louvre accepterait-il une donation si elle n'avait pas d'intérêt? Vous pensez bien que, évidemment, le Louvre était à même de recevoir des collections ou des donations extrêmement importantes. On a tout de suite l'œil attiré, en tout cas, notre curiosité est attisée par le fait que, au fond, cette acceptation montre bien que l'ensemble avait de l'intérêt. Et quand on reconstitue les trois parties de cette collection achetée en 1894, on s'aperçoit premièrement qu'il s'agit essentiellement de pièces de la période tardive, deuxièmement qu'il s'agit de pièces qui sont souvent des têtes, donc je n'ose pas dire des portraits, puisque nos amis égyptologues ne parlent pas de portraits à cette époque, mais ce sont en tout cas des têtes, et bien entendu on peut mettre ça en relation avec l'intérêt que Nelly Jacquemart portait en peinture à la physionomie humaine. Donc là, il y a déjà une orientation qui est prise qui est tout à fait passionnante. Et alors,
ils ont fait un deuxième voyage en 1901.
Alors, il y a eu plusieurs voyages, 1901 et même en 1904. Nelly Jacquemart est revenue en Égypte, mais là aussi, en consultant les archives, on s'aperçoit qu'elle s'est surtout intéressée à ce moment particulier à la civilisation ottomane. C'est-à-dire qu'elle a acheté en Égypte, notamment, toute une série de tapis ottomans du XVIe et XVIIe siècle de notre ère, extraordinaire, nous avons une pièce exceptionnelle, mais là vous voyez qu'on sort de l'Égypte pharaonique.
Comment procédait-elle quand même dans ses choix d'excellence, à part son goût pour l'art? Qu'est-ce qui lui a donné envie quand même d'acheter ces pièces de la période tardive?
Il faut le dire très clairement, il y a une espèce de boulimie extraordinaire, hein, puisqu'on sait que lorsqu'elle va en Italie, elle remplit des wagons entiers d'objets. Donc c'est assez étonnant, une espèce de besoin à tout prix d'acheter tout ce qui est disponible. Alors, ceci étant dit, ce besoin qui est un besoin un petit peu irraisonné, elle le conjugue avec une méthode très froide, très scientifique, puisqu'elle impose, elle, Nelly Jacquemart, achète surtout chez des marchands. Hein. Et donc, elle exige de ses acheteurs l'acceptation d'un jury qui, sur place, c'est-à-dire à Paris, validera ses choix.
L'achat.
Donc, en fait, elle fait appel au conservateur du Louvre, tout département confondu, qui lui disent, mais écoutez, oui, ici, c'est très bien. Là, écoutez, il y a un doute. Il faudrait peut-être mieux éviter de retenir cet objet. Et à ce moment-là, elle paye le retour de l'objet, certes, dans le transport qu'il représente, mais elle ne paye pas l'objet lui-même. Donc, c'est sous condition qu'elle achète ces objets. Alors, ça, c'est en réalité, c'est valable pour évidemment, les pays qui sont à proximité de la France. Pour les pays lointains, comme l'Égypte, elle ne peut pas procéder de la même façon, et donc elle le fait avec son sentiment et ce qu'elle ressent. On peut dire que de ce point de vue-là, elle n'a évidemment aucune connaissance, ni historique, ni d'aucune sorte en matière de l'Égypte ancienne, mais elle sait reconnaître les objets de qualité. Elle a cet œil, elle a cette capacité à retenir un objet. Et la meilleure preuve en est, d'ailleurs, une tête dite de vieillard qui appartient aux collections Jacques Marandré de Paris, qui est tout à fait exceptionnelle. Et si vous le permettez, je
vais me permettre d'ajouter. Oui, je vous en prie, j'allais vous demander quel était votre coup de cœur. Est-ce celui-là ?
Mon coup de cœur, vous allez le comprendre, c'est un objet qui, pour moi, a une valeur très particulière.
Alors, je vous laisse terminer sur la tête dont vous alliez nous parler.
Très bien. Alors, cette tête, donc, c'est une tête d'homme âgé qui appartient donc à la collection Jacques Marandré de Paris. Elle est là depuis de très nombreuses années. Et cette tête a été étudiée pour la première fois dans l'immédiate après-guerre par le professeur François Chamoux. Le professeur François Chamoux était professeur à la Sorbonne, archéologue de la période hellénistique. Et le projet était de vérifier si sur un objet égyptien, il y avait, comme on le disait jusqu'alors, influence de la sculpture grecque ou non. Et le professeur François Chamoux a étudié de très près cette tête et a conclu que l'influence grecque était inexistante. Alors, vous allez comprendre pourquoi je suis attaché à cet objet si je vous précise maintenant que celui qui lui avait suggéré de faire cette étude, c'était mon père, Jean Sainte-Fargarneau, égyptologue. D'ailleurs, maître de Jean Leclan, qui lui-même a été le maître de Nicolas Grimal. Donc vous voyez, c'est une histoire de famille. C'est très étonnant parce qu'aujourd'hui, je retrouve un objet voilà, qui autrefois était étudié par mon père. Et en fait, si vous voulez, ce geste qui a l'air anodin est très important parce que c'était une des premières fois qu'on disait « Voilà la preuve que l'époque tardive n'est pas une époque de décadence. Voilà la preuve que l'art égyptien est capable d'originalité. » Et puisque vous disiez tant du côté égyptien que du côté grec, nous savons qu'il y a une tendance à l'idéalisation. Là, lorsque nous voyons le réalisme dans le traitement des traits du visage tel qu'il apparaît sur cette tête, comme j'y reviens sur la tête de Berlin, alors nous avons la démonstration que l'art égyptien est autonome et capable de grandes créations artistiques.
Monsieur Sainte-Fargarneau, cette recherche, ce point de vue, le résultat des recherches de Monsieur Chamoux, c'est quelle année à peu près où
c'était en 46.
Voilà, juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
1946, au lendemain de la dernière guerre. Donc, mon père, comme François Chamoux, était jeune professeur à la Sorbonne, très lié, et donc ils ont utilisé leurs compétences réciproques pour faire avancer la science. Je dois vous préciser, pour être encore plus, pour vous expliquer à quel point ces questions-là me touchaient personnellement, François Chamoux a été le premier président du musée Jacques Marandré, sous lequel j'ai travaillé lorsque j'étais nommé ici même. Donc, et lui m'avait dit, vous savez, regardez cet objet qui était en vitrine, eh bien, c'est votre père qui m'a demandé de l'étudier. Et voilà, maintenant, on est en train de boucler la boucle, en quelque sorte. C'est pas un objet, c'est cet objet parmi d'autres qui nous permettent de présenter cette belle démonstration voulue par Olivier Perdu et qui nous permet d'admirer l'art égyptien aussi bien au dernier millénaire.
Monsieur Sainte-Fargarneau, pour conclure, votre coup de cœur ?
Bien, écoutez, mon coup de cœur, ça reste malgré tout au-delà des grands chefs-d'œuvre, parce qu'ils sont très nombreux dans l'exposition, ça reste cette statue féminine qui vient du musée de Berlin, qui est donc une figure de femme debout. Vous avez, elle est quasiment entière avec tout son corps, et c'est un exercice absolument admirable. Évidemment, nous avons une pierre dure, hein, et vous imaginez la difficulté de sculpter cette statue. Vous avez une figure magnifique avec ce poli si extraordinaire qu'on rencontre si souvent dans la sculpture égyptienne. Et surtout, il y a cette chose assez étonnante qui est de voir cette anatomie en quelque sorte féminine, dont on ne sait pas exactement si elle est habillée ou traitée nue, et qui ne nous laisse rien ignorer de ses charmes. Avec cette position, vous savez, très traditionnelle dans la sculpture égyptienne, du personnage qui est vu de face, c'est-à-dire les deux épaules dans le même plan, très figé en quelque sorte, mais en même temps, vous avez la jambe qui se lance en avant et donc qui installe la silhouette à la fois dans une épaisseur, mais aussi dans un mouvement. Et donc, vous avez cette chose tout à fait étonnante d'avoir une forme d'apparition avec cette figure de femme si belle. Vous savez, On parle évidemment des bustes de Cléopâtre et de Néfertiti, bon, Néfertiti toujours à Berlin, mais là, vous avez cette silhouette féminine prise dans son ensemble, et je trouve qu'on a rarement traité aussi bien de si belle qualité le corps féminin.
Eh bien, Nicolas Saint-Fargarno, merci de cet éclairage, de ces confidences familiales.
Voilà.
Et nous invitons bien entendu les visiteurs à se précipiter pour voir cette magnifique exposition « Le crépuscule des pharaons, chef-d'œuvre des dernières dynasties égyptiennes ». Merci monsieur, à bientôt.
Merci, au revoir madame.